Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Le timide retour des touristes en Gironde, ils n'ont pas renoncé à leurs vacances malgré l'incendie qui a ravagé la région. Reportage à Arcachon avec certains professionnels du tourisme qui retrouvent le sourire. Dans la Loire, des couvre-feux pour moins de 16 ans suspendus par la justice qui émet de sérieux doutes sur leur légalité. Et puis le mea culpa de la FIFA face au scandale sur son projet d'investissement privé. Elle présente ses excuses mais affirme son soutien à son président Gianni Infantino.
Clara, le secteur du tourisme n'a pas dit son dernier mot en Gironde.
L'incendie historique qui a ravagé le département est enfin maîtrisé selon la préfecture. Près de 600 pompiers encore mobilisés face aux fumerolles, mais les vacanciers commencent doucement à revenir. En témoignent ces chiffres de l'agence gouvernementale Atout France. 74% des réservations sont maintenues. Marion Gauthier à Arcachon, il y a un peu plus d'optimisme.
Les parasols à nouveau plantés dans le sable.
Le week-end dernier, il n'y avait personne.
Et des touristes qui voudraient être plus nombreux.
Le monde aux caisses. Non, mais c'est vrai, ça fait du bien. C'est les vacances, quoi.
Ça permet de se dire aussi que les incendies, c'est derrière nous et que la région revit, quoi.
Vous avez choisi ou pas encore ?
Les terrasses sont clairsemées, mais le parking de la plage est plein, plaisante une serveuse.
Voilà, il était temps.
C'est pas un mois d'août comme on l'attend, mais sinon, oui, on récupère un petit peu plus chaque jour.
Environ 40% de pertes, c'était 60% la semaine dernière.
On voit certaines voitures arriver avec des valises dedans, quelques arrivées donc au niveau du train. Les activités en bateau ont repris.
Mais en retrait du bassin d'Arcachon, de la désillusion aussi.
Voilà, c'est vide, ça fait mal.
Dans le silence du camping de Lionel.
Normalement, là, tous les emplacements sont pris à cette époque-là. Et là, vous voyez, il y en a un sur deux, quoi. Donc ça fait un taux d'occupation de 58%. Au mois d'août, c'est même pas imaginable. C'est des rires nerveux, c'est nerveux.
Toute la Gironde n'a pas brûlé, insiste-t-il. Beaucoup de professionnels reprochent à la préfète d'avoir incité les touristes à ne pas venir dans le département.
Tiens, justement, vous aviez l'intention d'aller en Gironde pendant ces vacances et vous maintenez votre projet. Eh bien, vous nous appelez au 3216 pour nous expliquer. Tout à l'heure, nous serons avec un restaurateur et la patronne du tourisme en Gironde. Ce sera à 7h40 sur RMC, RMC Story.
La Gironde où la préfète débloque 300 000 euros d'aide d'urgence pour les collectivités confrontées à des travaux. Après ce méga-feu, un comité de pilotage également mis en place pour la reconstruction. Le gouvernement, lui, dévoile un plan global pour ne laisser aucun agriculteur seul face aux canicules, aux incendies et à la sécheresse. Dans ce plan annoncé par la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, des dérogations, des simplifications et des mesures donc d'urgence pour aider les exploitations dans leur trésorerie. Dans la Drôme, le feu est stable, mais pas encore fixé autour de Bellegarde-en-Diois. Pour le Var, c'est une nouvelle journée à haut risque qui s'annonce. 8 massifs du département sont fermés à cause de risques incendies extrêmes.
Clara, des couvre-feux pour mineurs retoqués par la justice.
Oui, on vous en a beaucoup parler sur RMC. Ces couvre-feux instaurés depuis le début de l'été pour les moins de 16 ans dans 4 communes de la Loire près de Saint-Étienne. La justice vient de les suspendre. Le tribunal administratif de Lyon estime qu'il existe un doute sérieux quant à leur légalité, ce que contestent les maires, Victor Girard.
C'est incompréhensible. Voilà la réaction pleine de colère du maire de Saint-Chamond, Axel Dugas, le premier à avoir adopté un couvre-feu pour les mineurs dans la Loire. L'élu dénonce la décision du tribunal administratif qui pointe, je cite, l'absence de circonstances particulières locales.
La préfecture, on leur a envoyé les mains courantes de la police municipale. 188 interventions sur des regroupements de mineurs après 23 heures entre le 1er janvier et le 30 juin. Donc quand on me dit c'est pas assez quantifié, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité.
Des interventions pour des nuisances sonores par exemple, des plaintes de riverains qui réclamaient plus de tranquillité. Pour l'élu, le couvre-feu avait produit ses effets.
On a senti un apaisement, un calme. La peur de la police pour les jeunes qui créaient des nuisances.
Avec la suspension de son arrêté, le maire de Saint-Chamond a donc le sentiment d'être pris entre deux feux.
Les gens nous tapent dessus en disant ramenez de la sécurité. Et derrière, l'État vous empêche. On a l'impression d'être abandonné en fait.
De son côté, Nathalie Théillot, la présidente de la Ligue des droits de l'homme, salue la décision du tribunal administratif et dénonce des couvre-feux devenus de plus en plus fréquents.
Des maires l'ont fait, alors tout le monde se met à le faire. Comme une sorte de politique d'affichage du maire, alors que c'est pas son travail. Son travail, c'est de protéger la liberté.
Les maires des 4 communes concernées réfléchissent désormais à saisir le Conseil d'État.
Eh ben là encore, justement, qu'est-ce que vous en pensez de ces couvre-feux pour mineurs? Vous nous appelez au 3216. Vous réagissez également sur le WhatsApp de l'émission au 06 12 424 424.
Le chef Jean Humbert échappe pour l'heure à une mise en examen. Le vainqueur de Top Chef, accusé de violence conjugale par plusieurs de ses ex-compagnes, il a été entendu hier par un juge d'instruction après 36 heures de garde à vue et a été placé, Pierre Bazin, sous le statut de témoin assisté.
Oui, c'est un statut plus clément que celui de mise en examen qui est décidé par un juge d'instruction, notamment lorsque les indices ne sont pas suffisants. Toutefois, ce statut ne veut pas dire qu'il n'existe aucune charge contre le chef cuisinier. Au contraire, le juge d'instruction, en plaçant Jean Humbert sous le statut de témoin assisté, estime qu'il y a des éléments rendant vraisemblable sa participation à la commission de l'infraction. 6 de ses ex-compagnes ont dénoncé depuis plusieurs années des violences de différentes natures, nez cassé, morsure, comportement humiliant. Jean Humbert a toujours nié ses accusations. Hier, l'une de ses avocates a salué une décision de justice rassurante face à la complexité de ce dossier. Les investigations vont se poursuivre et Jean Humbert pourrait être mis en examen plus tard au cours de la procédure si de nouveaux éléments apparaissaient durant l'instruction.
Pierre Bazin, service police-justice d'RMC. Le corps de la femme emporté par les eaux en Haute-Savoie a été retrouvé hier, victime de la montée des eaux après un violent orage près de Samoin. Cette femme de 56 ans, originaire de l'Oise, était en vacances dans la région avec son mari. La liste s'allonge. Encore un candidat à la présidentielle visé par une ingérence en provenance de Russie. Après Édouard Philippe et Raphaël Glucksmann, c'est au tour de Gabriel Attal, visé par une opération de désinformation selon son entourage, des contenus dans lesquels le candidat de Renaissance est présenté par exemple comme atteint de la maladie de Parkinson. Sonia Gobry, service politique d'RMC, c'est la troisième ingérence pro-russe en seulement quelques jours.
Et avec toujours le même mode opératoire, identité visuelle, logo de grands médias français usurpés pour diffuser de manière coordonnée sur les réseaux sociaux, de fausses rumeurs, des montages truqués. Édouard Philippe, Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, ciblés à 8 mois de la présidentielle. L'objectif est clair, déstabiliser la campagne. Pour l'instant, ces opérations de manipulation restent limitées, elles sont peu visibles, mais la vigilance reste de mise. Auprès de RMC, une source sécuritaire prévient, il en suffit d'une d'ampleur et là, il y aura un impact sur le débat public. La menace est réelle. Elle met en garde le Premier ministre Sébastien Lecornu. Alors, pour mieux lutter contre les ingérences étrangères, le gouvernement a présenté un projet de loi qui doit être examiné cet automne. Il prévoit notamment de durcir les peines en cas de diffusion de fausses informations dans un contexte électoral.
Qui pour sauver Duralex? Les candidats à la reprise du célèbre fabricant de verre ont jusqu'à midi pour déposer une offre. Duralex placé en redressement judiciaire en juin, 2 ans après l'euphorie du sauvetage par les salariés et la création d'une SCOP. Martin Bourdin, cela n'aura donc pas suffi à sauver l'entreprise et les salariés sont de plus en plus pessimistes.
Le nom du seul repreneur déjà connu ne les rassure pas vraiment. Ses salariés, le groupe Carlessimo, déjà candidat à une reprise il y a 2 ans, avec à l'époque un plan qui prévoyait plus de 150 suppressions d'emplois.
Une chose qui est sûre, c'est qu'il va y avoir la casse salariale. Hein.
François Dufresne est délégué syndical CGT à Duralex.
On a toujours l'espoir, on l'espère pour les salariés. Mais bon, j'ai plus l'impression que ça va être des coupeurs de tête qui vont arriver. Hein. Quand ça fait 35 ans que vous y êtes et c'est la 5e reprise... On commence à être blasé. T'as l'impression qu'on nous roule dans la farine. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on fait de l'artisanal. On est incapable de calculer un prix de revient. Le coût de fabrication, il est énorme aujourd'hui. Tant qu'on sera pas capable de stabiliser tout ça, on verra pas clair.
Depuis 2 ans, une seule des 5 lignes de production de la verrie fonctionne.
Moi, j'ai connu il y a 35 ans, se battait pour les arrêts de ligne, pour faire un minimum d'arrêts de ligne. Pour produire un maximum, mais là, on fait le contraire.
Car Duralex a trop de stock. L'entreprise expliquait début juin produire trop pour trop cher. Les ventes ne suivent pas, ce qui aggrave les difficultés financières d'une verrerie déjà pénalisée par la hausse des prix de l'énergie et des matières premières.
2 soldats israéliens tués dans le sud du Liban, annonce ce matin l'armée israélienne, tués au cours de combats avec le Hezbollah. Ce sont les premiers morts côté israélien dans cette région depuis la fin du mois de juin.
C'est le scandale qui agite le monde du football en ce moment, le projet de la FIFA d'ouverture à des investisseurs privés, Clara.
Et qui depuis 10 jours suscite énormément de critiques. Eh bien la FIFA fait son mea culpa après une réunion de crise au Maroc hier et l'abandon du projet. Un communiqué a été publié tard hier soir, Célestin Bougère. La FIFA reconnaît donc des erreurs et présente ses excuses.
Oui, des excuses, mais la FIFA ne lâche pas son patron pour autant. Dans son communiqué, l'instance dirigeante du football mondial réaffirme son plein un soutien à Gianni Infantino qui est attaqué de toutes parts ces derniers jours, à commencer par Luis Figo. Son conseiller a réclamé hier sur les réseaux sociaux la démission du président de la FIFA. Il est trop tard pour sauver sa dignité, mais pas pour sauver le football, explique l'ancienne gloire portugaise. Plus tôt dans la semaine, Arsène Wenger, directeur du football à la FIFA, a pris ses distances avec Gianni Infantino. Mais le coup de grâce est arrivé dans un mail envoyé aux employés de la FIFA de la part du secrétaire général de l'instance, l'homme le plus proche d'Infantino, Matthias Grafström. Il parle d'une série d'événements tristes et répréhensibles, sans un mot pour son patron. Et l'UEFA, l'instance européenne, va accélérer la contre-attaque lors d'une grande réunion prévue la semaine prochaine en Autriche.
Célestin Bougère, une lourde défaite pour le Paris Saint-Germain hier, renversé 3-0 en match amical par Mallorca, club de deuxième division espagnole. Le coach Luis Enrique a aligné une équipe particulièrement rajeunie, privée de ses nombreux cadres qui viennent de revenir de vacances après le mondial. Et puis le rêve de doublé s'éloigne considérablement pour Pauline Ferrand-Prévot. La Française a encore pris du retard hier sur la cinquième étape du Tour de France Femmes, remportée cette étape par la néerlandaise Demi Vollering, et une sixième étape aujourd'hui pour les baroudeuses entre Montbrison et Tournon-sur-Rhône. Ce sera à vivre évidemment sur RMC.
Merci beaucoup Clara, et le prochain journal ce sera à 7h30. Tiens, si on allait au 32-16. Au 32-16 pour retrouver Alain. Bonjour Alain.
Bonjour RMC.
Merci d'être avec nous Alain, on est dans l'Essonne, c'est ça?
Tout à fait, dans l'Essonne.
Et vous êtes policier municipal, c'est ça?
Voilà, et vous avez été pompier volontaire dans l'Essonne pendant 35 ans.
35 ans chez les sapeurs-pompiers. Sapeurs-pompiers à l'époque professionnels?
Non, volontaires.
Volontaires, d'accord.
J'ai commencé en 1989 et j'ai arrêté le 1er janvier 2025.
D'accord, voilà. Et vous avez enchaîné sur la police municipale. Mais Alain, voilà, vous voulez justement nous parler des sapeurs-pompiers, parce que là, avec l'actualité et ces méga-feux qu'on a connus ces derniers jours, ça continue encore en certains endroits en France, il y a... C'est ce que nous disent les chiffres, une explosion au niveau du recrutement, en tout cas des demandes pour rentrer en tant que sapeur-pompier volontaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est très bien, sauf qu'il faudrait que ça dure dans le temps. Parce voilà, que vous regardez les statistiques, un an, deux ans, cinq ans, il y en a de moins en moins, dix ans, ça diminue, 15 ans, 20 ans, 25, 30, 35, il n'y en a plus beaucoup. Dans les statistiques, j'en connais pas beaucoup qui ont 35 ans de pompiers volontaires.
C'est-à-dire qu'il y a, des volontaires, et c'est très bien, on ne peut que s'en réjouir. Les gens sont sensibles. Maintenant, entre l'idée qu'on se fait du métier et la réalité du terrain, c'est parfois très différent. Et si c'est pour s'engager pour un an ou deux ans, c'est pas très bon.
Et une formation initiale de pompier, ça coûte très cher. Ça coûte très cher à l'État, surtout au département qui fait les formations. Et tout le monde n'est pas préparé à être pompier volontaire. Tout le monde n'est pas, un accident de la route, un feu, des blessés graves, des morts. Tout le monde, psychologiquement, n'est pas prêt à être pompier volontaire. Voilà.
Donc, et ça, Alain, c'est intéressant ce que vous nous dites, parce que c'est pas propre aux sapeurs-pompiers. On sait que c'est la même chose, notamment en ce qui concerne les policiers et les gendarmes. Il y a de plus en plus de ce qu'on appelle, je vais employer un terme anglo-saxon, mais c'est pas grave, un turnover, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes qui s'engagent dans la police municipale ou dans la police nationale, chez les gendarmes, chez les sapeurs-pompiers, mais il n'y reste que un an, deux ans, trois ans pour arrêter ensuite. Et ça coûte de l'argent, parce que comme vous le dites, il faut les former et ça coûte.
Tout à fait. Ça coûte très, très cher de faire une formation de secourisme ou une formation incendie. Et si c'est pour rester un an ou deux ans, ben voilà, c'est bien. Ça va faire du chiffre. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Mais après, il faut voir dans le temps combien de temps les gens ils vont rester. Voilà.
Merci de votre témoignage, Alain. Alain qui nous appelait au 32-16 depuis l'Essonne. RMC, 7h13.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Victor. On a déjà des messages sur le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424 et tu es là pour les lire.
Et oui, et notamment sur cet afflux de candidatures pour les sapeurs-pompiers volontaires au 32-16. On a eu Sébastien un petit peu plus tôt dans le morning qui nous parlait de son fils, oui, 18 ans, et qui a été notamment envoyé sur ces feux cet été. On a Yannick qui nous dit, oui mais d'accord, mais ce n'est pas juste les jeunes. Hein. Moi j'ai 46 ans, ça faisait longtemps que j'y pensais, mais là j'ai vraiment décidé de sauter le pas et je me suis mis à fond dans les démarches. On a aussi Pascal Pascal, qui lui est ancien pompier volontaire en Moselle et qui nous dit, bien, au vu du rythme des formations et le temps que ça prend sur 10 candidatures, j'estime qu'il y en aura 2 ou 3 qui iront jusqu'au bout de la démarche et qui s'inscriront dans la durée. On a aussi Ludo qui fait une remarque en nous disant, ben, vu comment l'État laisse les pompiers galérer avec du matériel obsolète, je souhaite beaucoup de courage, et ils ont beaucoup de courage, toutes ces nouvelles recrues. Et puis on a Florian qui nous dit, le volontariat, c'est super, c'est très bien, il faut l'encourager, mais ce dont on a le plus besoin, ce sont de pros, de pompiers professionnels. Vous continuez à réagir au 32-16 et sur le WhatsApp d'RMC 06-12-424-424.
Allez, dans un instant, 53 millions d'euros pour une entrée ultra moderne en verre à l'Assemblée nationale. Un bon gros bloc de 4000 mètres carrés. Julien Lacaze, président de Sites et Monuments, ne veut pas de ce projet, c'est son parti pris. Dans un instant, et c'est sur RMC et RMC Story. Bon réveil à tous.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC, 7h16. Tiens, si vous voulez réagir à ce projet, appelez-nous au 32-16. Un bloc de verre de 4000 mètres carrés pour 52 800 000 euros. De l'argent public. C'est le futur pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale. Le projet, suspendu depuis février parce que jugé trop haut, incompatible avec les règles d'urbanisme du secteur, vient d'être relancé. De quoi relancer aussi la colère des défenseurs du patrimoine. Une pétition contre ce projet approche les 73 000 signatures. Bonjour, Julien Lacaze.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story. Julien Lacaze, vous êtes le président de l'association Sites et Monuments. Votre parti pris ce matin, faire capoter ce projet. Qu'est-ce qui vous pose exactement problème dans ce projet de pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale ?
Alors chacun connaît le site, hein, qui va de l'église de la Madeleine jusqu'à la colonnade de l'Assemblée nationale. C'est un site d'ailleurs du patrimoine mondial, puisque les rives de la Seine sont classées au patrimoine mondial, qui appartient au site patrimonial remarquable du 7e arrondissement. On est vraiment au sommet en fait des sites protégés en France. C'est un site qui se caractérise par son horizontalité, par sa minéralité, par sa symétrie parfaite. Mmh. Et là, on voudrait en fait remplacer un bâtiment bas qui date de 1888, qui est tout à fait discret, qui a été conçu pour ça, par un bâtiment extrêmement voyant en verre, qui est un matériau qui n'est absolument pas usité dans cette zone de Paris.
Julien, pour ceux qui n'auraient pas vu Julien Lacaze, pour ceux qui n'auraient pas vu ce projet, décrivez-nous. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ?
Alors, on le décrit souvent comme quatre silos en verre qui évoquent donc des colonnes avec un toit plat. Et donc c'est un bâtiment qui serait à la droite de la colonnade de l'Assemblée nationale qu'on voit très souvent en prenant le pont de la Concorde. Et donc ça viendrait déséquilibrer en fait cette composition qui deviendrait bancale. Il y aurait d'un côté ce gros bloc et de l'autre côté un petit jardinet. Et c'est ça qui est critiqué non pas seulement par nous, hein, association de protection du patrimoine, mais par la commission du Vieux Paris qui est spécialisée dans ces questions, qui à l'unanimité a repoussé le projet, et puis des historiens de l'art, de l'architecture, tout le monde est contre en fait ce projet.
Alors il y en a un qui est pas contre, c'est l'architecte Alain Moati qui se défend en disant qu'il faut ramener du contemporain parce que les temps ont changé, le patrimoine doit-il être figé?
Oui, alors ça c'est, tout dépend quel contemporain, parce que tout projet architectural n'est pas bon à prendre. Il se trouve qu'il y a eu un concours d'architectes et que l'agence SANA, qui est une agence japonaise d'architecture, qui a eu l'équivalent du prix Nobel d'architecture, a proposé un projet qui conservait en fait le pavillon actuel, qui a un intérêt historique qui est évident, en tous les cas à nos yeux, et qui s'intègre parfaitement en le flanquant d'un avant-corps en pierre de taille, légèrement ondulant, un projet minimaliste qui est absolument... Qui est très beau et tout à fait adapté au site. Donc il y a différentes manières d'amener de la contemporanéité dans un site. C'est la manière la plus tonitruante qui a été malheureusement choisie.
C'est pas la première fois qu'il y a ce type de polémique. Hein. Mais dans ce cas-là, enfin, si on va par là aussi, vous vous souvenez de la polémique de la pyramide du Louvre. Évidemment, à l'époque, ça a été hyper contesté. Et puis finalement, aujourd'hui, plus personne n'en parle, ou en tout cas ne le conteste. Même certains trouvent ça magnifique. Ça s'est parfaitement intégré dans un décor qui est totalement différent.
Oui, encore une fois, Peille est un très grand architecte qui a eu d'ailleurs le Pritzker Prize dont je vous parlais, hein, ce Nobel d'architecture. Là, on a vraiment, c'est un projet qui est tout à fait grossier, qui joue sur l'idée de transparence, parce que l'institution doit être transparente. Et voilà. Donc c'est vraiment presque un jeu de mots. Le projet s'appelle l'avenir, à venir, invitation à venir. Mmh. Vous voyez, c'est de ce niveau-là, en fait.
Il suffit de voir le projet, millions
en image, on comprend.
Plus de 52 millions d'euros d'argent public, parce que l'Assemblée nationale assure que c'est financé sur ses réserves à 100%, sans emprunt. Mais enfin, les réserves de l'Assemblée nationale, sauf erreur de ma part, c'est de l'argent public, hein, c'est nos impôts.
Évidemment. Là aussi, il y a un tour de passe-passe qui est complètement ridicule. Ce sont des réserves de nos impôts qui ont été mises de côté, qui servent à financer l'institution. Eh bien, ils doivent servir à autre chose. Ou si l'Assemblée nationale a trop de réserves, elle peut aussi les rendre. Hein. Ça peut aussi servir à autre chose.
Vous allez attaquer en justice ?
Oui, on va attaquer en justice. Alors ça va être plus compliqué parce que là, on a modifié en fait le règlement d'urbanisme pour le rendre conforme au projet, alors que normalement c'est l'inverse, hein, c'est le projet qui doit être conforme au règlement d'urbanisme, mais manifestement l'Assemblée nationale a tous les droits, et ça c'est un autre problème c'est l'exemplarité, le mauvais exemple que donne l'Assemblée nationale.
En tout cas, vous ne lâcherez pas l'affaire, on l'a bien compris, Julien Lacaze.
Ah non, on ne lâchera pas l'affaire parce que c'est fondamental.
Ouais. Merci Julien Lacaze d'avoir été avec nous, président de l'association Sites et Monuments. Vous voulez réagir à ce projet, ça vous choque, plus de 50 millions d'euros de dépensés pour la nouvelle entrée de l'Assemblée nationale, vous nous appelez au 3216. Dans un instant, le meilleur d'Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, et puis le chiffre du jour avec Pierre Rondeau, notre économiste. Pierre, on a rendez-vous ce matin chez le docteur.
Oui, et on va avoir le choix parce qu'il va y avoir de plus en plus de médecins dans l'avenir.
A tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
RMC, 7h22.
RMC,
le chiffre du jour.
Pierre Rondeau, notre économiste, est avec nous. Un chiffre, 10 260. 10 260, c'est le nombre, Pierre, de postes d'internes ouverts pour la promotion 2026, on parle des médecins.
Oui, hein, la France compte former plus de médecins et a ainsi augmenté le nombre de postes d'internes par rapport à 2025, en augmentation de 15%. Il y avait 8 919 postes d'internes l'année dernière. Le ministère de la Santé salue une progression historique et des efforts déployés et spécifiques sur les spécialités en tension, comme la dermatologie, la gériatrie ou la pédiatrie.
Alors, une question quand même, Pierre, parce qu'on parle d'augmentation des postes, donc c'est prévu, alors que le concours de médecine, c'est un concours, donc on ne peut pas savoir combien exactement seront reçus. Comment expliquer, justifier cette hausse ?
Alors, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, parce que concours, on se dit, tiens, si j'ai pas eu le concours, je peux pas avoir un poste d'interne.
Si cette promotion-là, on a affaire à que des mauvais, ils ont tous des mauvaises notes.
On aura des mauvais médecins.
Oui.
Non, je vous rassure, Rémi, c'est tout simplement la conséquence de la suppression du numerus clausus décidé en 2019, précisément dans l'objectif de former davantage de médecins. Avant 2019, le numerus clausus était le nombre maximal d'étudiants autorisés à passer en deuxième année d'études de médecine. Créé en 1971, il était supprimé en 2019 pour lutter contre le manque de médecins, remplacé par ce qu'on appelle le numerus apparitus.
Magnifique.
Dorénavant, ce sont les universités qui vont décider de façon autonome le nombre de places en deuxième année, selon les moyens de formation et les besoins de la région. Et je vous rassure, Rémi, il n'y a pas de baisse de niveau, puisqu'en 2024 a été introduite une note éliminatoire aux épreuves écrites et orales.
C'est
beaucoup, rassurez-vous, ce sont des bons internes et de bons médecins. Vous n'êtes pas assez bon, vous partez, mais vous réussissez vos examens, vous passez en année supérieure, jusqu'à la septième année, où là, c'est le ministère de la Santé qui va décider du nombre de postes d'internes.
Et il le fait à partir du nombre d'étudiants de troisième cycle.
Oui, c'est ça. Mmh. Si les universités ouvrent plus de places, il y a plus de monde et nombre d'internes grandit. Mmh. Cela va dans l'intérêt des services de santé, lutter contre les déserts médicaux. Plus de médecins vont être formés dans les spécialités et des territoires en difficulté, comme le Centre Val-de-Loire, la Nouvelle-Aquitaine ou les Hauts-de-France. Mmh. Reste à savoir maintenant si cela sera suffisant. Je rappelle que selon la CGT et les collectifs de soignants, il faudrait former au moins 16 000 médecins par an, pour véritablement mettre fin aux déserts médicaux. 16 000, on en est à 10 260, donc pour l'instant, le compte n'y est pas.
Merci beaucoup Pierre Rondeau, et on se retrouve après le journal de 8h. Pierre, on parlera des constructeurs auto qui investissent dans le domaine militaire. À quand le nouveau char Renault ? Mais tout de suite, c'est le meilleur de l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier, et il nous emmène en Alsace.
Après avoir échoué à s'entendre hier, les députés vont poursuivre aujourd'hui des débats
sur un texte assez polémique qui prévoit le retour de la région Alsace. Certains élus redoutent un effet boule de neige.
Et oui, depuis le redécoupage régional de 2016, l'Alsace fait partie de la région Grand Est, hein, avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Le but de cette loi, c'est justement de sortir l'Alsace du Grand Est pour qu'elle devienne une région à part entière. Ce que ça montre, c'est que les découpages administratifs ont des conséquences politiques, hein, puisque l'Alsace, c'est une des régions françaises avec l'identité la plus forte et qui a toujours eu des revendications.
Alors d'un autre côté, l'Alsace, elle a une histoire très complexe en France, avec la France.
Et vous avez raison, Apolline. Pendant longtemps, l'Alsace déjà était sous influence germanique. Donc elle appartenait à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne, tout simplement. Elle ne devient française que sur le tard, en 1648, donc au milieu du XVIIe siècle.
Quels problèmes vont se poser à ce moment-là pour l'intégration ou le lien entre la France et l'Alsace?
Alors déjà, l'Alsace est une région avec une double culture, hein, allemande et française, et ça se voit dès le début de son rattachement, puisque la France impose ce qu'on appelle la langue du roi, c'est-à-dire le français, mais dans les faits, la majorité des Alsaciens parlaient alsacien, donc en fait c'était très proche de l'allemand. Pareil pour la religion. En France, le protestantisme était interdit, puisque notre religion d'État, c'était le catholicisme. Eh bien, en Alsace, le protestantisme était autorisé. Vous voyez déjà des exceptions à la règle.
La France lui doit son hymne national.
Eh oui, on l'ignore un peu, mais la Marseillaise a été écrite à l'époque de la Révolution française, en 1792, par un militaire français qui s'appelait Rouget de Lisle. Et cette chanson, il l'a composée, jouée et chantée pour la première fois à Strasbourg.
L'Alsace va ensuite redevenir allemande.
Alors voilà, c'est un peu compliqué, hein. De 1870 à 1945, au gré des victoires de l'Allemagne ou de la France, l'Alsace va être allemande, puis française, puis à nouveau allemande et finalement française. Mais ce qu'elle a conservé, c'est son identité, hein, avec sa langue. Et certains petits Alsaciens se sont même sentis humiliés par le français après la guerre, puisque pour les punir, on leur demandait parfois de copier 100 fois la phrase suivante: je ne parle pas l'alsacien en classe.
Oui. Et aujourd'hui, l'Alsace, elle a donc encore un statut particulier.
Et oui, puisque la séparation de l'Église et de l'État qui s'applique en France, eh bien, ne s'applique pas chez elle. Je vous explique pourquoi. La loi sur la laïcité française date de 1905, sauf que, en 1905, on vient de le dire, l'Alsace était allemande. Donc on a considéré que la loi ne les concernait pas. D'ailleurs, les Alsaciens n'en voulaient pas vraiment. Résultat, en Alsace, à l'heure où nous parlons, les cultes sont enseignés à l'école publique et c'est même le ministère de l'Intérieur qui nomme et rémunère les prêtres, les diacres, les pasteurs, les rabbins. Bref, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une région qui ne fait rien comme tout le monde.
Arthur Chevalier est retrouvé en podcast sur l'appli RMC. Et dans un instant, la météo, le journal de 7h30 sur RMC, RMC Story. Bon réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clément Guiz. Bonjour Clément.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Toute une ville contre Burger King dans le Puy-de-Dôme à Beaumont. Élus de tous bords font commun pour empêcher l'installation de ce fast-food. RMC embarque avec les gendarmes mobilisés contre les incendiaires dans le Var. L'incendie dans le secteur de Corrence n'est toujours pas fixé, mais stabilisé. Et reprise compliquée pour le PSG, une semaine de la Super Coupe d'Europe. Défaite 3-0 en amical contre Majorque. Et Didier Deschamps, lui, est très courtisé. C'est une info RMC Sport. L'Arabie Saoudite lui fait les yeux doux.
Clément, c'est un burger qu'on a du mal à digérer à Beaumont, dans le Puy-de-Dôme.
L'arrivée annoncée d'un Burger King met toute la classe politique locale d'accord contre ce projet. Cette construction risque, selon eux, de provoquer des nuisances pour les riverains. Le maire promet un combat jusqu'au bout, Vincent Chevalier.
Près d'une zone commerciale, le futur fast-food doit s'implanter entre une nationale et un lotissement. Dans les jardins partagés, derrière la parcelle, les riverains font grise mine.
Ça va créer des nuisances sonores, visuelles, les camions, les livraisons, le drive.
Burger King, là, à côté de McDo, ça fait trop. Il va qui veut, hein. On n'est pas forcé à y aller, mais bon, comme dit Michel, trop de nuisances.
Effectivement, une autre enseigne est déjà installée à 200 mètres. Alors certains ne voient pas le problème à un peu de concurrence.
D'abord, il faut faire travailler les gens et puis qu'on ait le choix.
Au niveau tarif, c'est sûr, pour nous, les jeunes, on a 20 ans, c'est vrai qu'un vrai resto, ça coûte beaucoup plus cher. Il y a des petits menus, c'est quand même beaucoup plus pratique et agréable.
Pour l'instant, la municipalité refuse le permis de construire.
Il y a très peu de marge de manœuvre, c'est David contre Goliath.
Pour le nouveau maire Jean-François Viguès, la zone visée par l'enseigne n'est pas propice à ce genre d'activité.
Certes, on est du terroir, on aimerait plutôt avoir un restaurant avec un bon OAP Saint-Nectaire, une bonne viande de Salers ou de Charolaise. Il faut de l'emploi, il faut créer des richesses. Donc j'ai pas de problème avec l'activité. Ce qui me dérange plus, c'est le volume et les désagréments qui sont induits par cette activité.
Une conciliation est toujours en cours. Contacté, Burger King n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire? Est-ce que vous comprenez le combat de la commune de Beaumont dans le Puy-de-Dôme? Est-ce qu'il y a trop de restaurants burgers en France? Vous nous appelez au 3216.
800 pompiers toujours mobilisés dans le Var. L'incendie dans le secteur de Corrence n'est toujours pas fixé mais stabilisé. Les autorités craignent des reprises de feu aujourd'hui en raison du Mistral et de la canicule, jusqu'à 40 degrés attendus aujourd'hui. Et les gendarmes, eux, traquent les pyromanes. L'hypothèse de mise à feu volontaire est sérieusement envisagée par les autorités. Et notre envoyé spécial Rachel Sadodine a pu les suivre pour RMC.
J'embarque avec Sébastien et deux de ses collègues gendarmes de réserve du Var.
On va faire des contrôles aléatoires.
Du côté de quel secteur ?
Le Val, direction Montfort, qui a été un point critique les jours précédents.
En à peine 5 minutes, on se retrouve au milieu des collines calcinées. Paysage de dévastation ravagé par les flammes. Et ici, la préfecture a émis un certain nombre de consignes.
On évite tout ce qui va être transport de produits inflammables, jerrycan. Si d'un coup, on voit un tas de briquets tempête, tout ça, on va lui demander à quoi ça va servir.
Là, on est en train d'arriver sur le point de contrôle, c'est ça ?
C'est ça. On va mettre les chasubles pour qu'ils nous voient au loin.
Plus de 35 degrés ici, dans le Var. Quelques gouttes de sueur perlent du front de Sébastien, lunettes de soleil sur le nez.
Madame, bonjour, gendarmerie. Je vais vous demander permis de conduire.
Les papiers d'identité de chaque conducteur sont scannés dans le logiciel de la gendarmerie. Michel, 78 ans, habite à Montfort-sur-Argent. Il se sent rassuré par la présence des forces de l'ordre.
C'est important parce que de plus en plus de fous, ils foutent le feu, ils font des conneries sans arrêt.
Face aux incendies, un petit peu de paranoïa.
Oui, ils vont nous prévenir dès qu'ils voient une personne un peu bizarre qui devrait pas être là. Nous, on reste à l'affût, justement.
Cet après-midi, lui et sa patrouille iront contrôler les massifs, les chemins forestiers, en principe interdits à la circulation. Chaque personne contrevenant à cette règle fera l'objet d'un signalement.
Et cette info que RMC vous révélait dès hier, une réunion d'un collectif d'habitants de la commune du Porge est prévue mercredi prochain. Ce collectif va porter plainte d'ici la fin du mois pour mise en danger de la vie d'autrui. Ils assurent avoir été délaissés par les autorités. L'État débloque en urgence 300 000 euros pour aider les communes les plus touchées par l'incendie. Une première enveloppe destinée à financer les travaux les plus urgents, alors que les dégâts se chiffrent déjà en millions d'euros. Sébastien Lecornu, lui, veut poursuivre à la rentrée un travail commun avec l'ensemble des formations politiques pour lutter contre les ingérences étrangères. Il l'annonce sur X alors que 3 candidats déclarés ou pressentis à la présidentielle, notamment Gabriel Attal, ont été visés ces derniers jours par des opérations de déstabilisation russe.
RMC 7h35, Jean Humbert évite la mise en examen.
Le chef cuisinier des stars accusé de violence conjugale par plusieurs anciennes compagne est sorti de garde à vue après 36 heures et a été placé sous le statut de témoin assisté. Réaction de l'avocat de l'une des plaignantes, maître Roman Lebovici.
C'est un statut intermédiaire qui est, on va dire, moins couramment attribué ou décidé par les juges d'instruction. On va pas parler aujourd'hui de victoire ou de défaite dans un sens ou dans un autre. On en est au début d'une instruction qui va se dérouler probablement, on le sait, dans ce type de dossier, entre 18 et 24 mois. Et donc, tout va pouvoir changer parce que l'enquête va être approfondie.
Une femme placée en garde à vue à Colmar, accusée d'avoir poignardé un gendarme en civil hier lors de son interpellation à la sortie d'un train. Elle était passagère d'un TGV reliant Mulhouse à Colmar et proférait des menaces à l'encontre de plusieurs personnes dans le wagon. La victime a été grièvement blessée.
Les deux streamers Naruto et Safin condamnés pour des violences en ligne.
Ils étaient à l'origine du live dans lequel Jean Pormanov avait perdu la vie l'été dernier et ont écopé de 24 et 18 mois avec sursis pour violences et humiliations en ligne. Un procès qui ne jugeait pas la mort de Jean Pormanov, mais les sévices infligés. Des faits, Delphine Schliss, qui se sont déroulés entre 2023 et 2025 sur la plateforme Kick.
Des gifles, des coups de pied, de fouets, de battes de baseball, des cris dans les oreilles, ce sont ces actes que le tribunal de Nice a condamnés hier. Des violences infligées à deux hommes, dont Jean Pormanov, lynché en direct pendant des heures sur la plateforme de streaming Kick. Une chaîne suivie à l'époque par près de 20 000 personnes. Aux commandes, les animateurs Safin et Naruto, ils écopent de lourdes peines de prison avec sursis, mais aussi d'un bannissement numérique de 6 mois. Autrement dit, ils ne pourront plus créer de contenu sur les plateformes. Mais attention au contournement, avertit Philippe Cohen de l'ONG Respect Zone contre la haine en ligne.
Notre demande, c'est que les autorités d'enquête ne désemparent pas pour être sûrs que ces auteurs ne vont pas sous un nom différent, sous une plateforme différente, dans des contrées différentes, reprendre une activité lucrative.
Ce jugement pourrait aussi accélérer une autre enquête en cours, espère l'ONG, celle sur la responsabilité de la plateforme Kick dans la monétisation et la régulation des cyberviolences.
Les candidats à la reprise de Duralex n'ont plus que quelques heures pour déposer une offre. Placée en redressement judiciaire en juin, la célèbre verrerie joue une nouvelle fois son avenir. Reprise difficile pour le PSG, une semaine de la Supercoupe d'Europe. C'est un PSG remanié qui s'est présenté hier soir sur la pelouse de Majorque. Les principaux titulaires sont encore en vacances ou en phase de reprise. Premier match amical hier et lourde défaite 3-0 contre Majorque. Prochain match amical ce samedi à 17h face à Manchester United avant la Supercoupe d'Europe. PSG Aston Villa, mercredi prochain à 21h à suivre sur RMC.
Allô, le téléphone de Didier Deschamps sonne déjà.
Ouais, c'est une info. RMC Sport, l'ancien sélectionneur des Bleus, est très convoité, Léo Piedayel.
Et notamment en Arabie Saoudite. Selon nos informations, Al Ahly lui a fait les yeux doux et Didier Deschamps n'avait pas fermé la porte aux discussions qui ont bien eu lieu entre les deux parties. Toutefois, les négociations ne devraient finalement pas aller à leur terme et sauf retournement de situation, l'ancien sélectionneur des Bleus ne rejoindra pas le pays du Golfe. Le processus de décision propre au football saoudien est très différent de celui que l'on connaît en Europe. Après ses 14 années passées à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps ne restera pas loin du monde du football très longtemps. Le double champion du monde a toujours dit qu'il n'entendait pas s'arrêter là. Avant le Mondial 2026, il déclarait même qu'il resterait dans le football sous une forme ou une autre.
Et Pauline Ferrand-Prévot a perdu pied hier lors de la 5e étape. Larguée à 5 minutes du maillot jaune, Marlène Reusser place aujourd'hui à la 6e étape entre Montbrison et Tournon-sur-Rhône. C'est à suivre sur RMC dès 15h.
Le Quintet Plus se déroule sur l'hippodrome d'Anguin. Ce sera à 20h15.
Le pronostic de Dimitri Blanc-L'Œil, son favori est le 14, Newsmaker, son outsider le 3, Miss Disco.
Merci beaucoup Clément. Prochain journal, ce sera à 8h. On va au 32-16. Benjamin est avec nous. Bonjour Benjamin.
Salut Rémi.
Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story. Benjamin, vous êtes dans Lyon.
Exactement.
Dans quel coin de Lyon?
Je suis à Saint-Fargeau, à 45 km d'Auxerre.
Très bien. Et vous avez été pompier volontaire?
Tout à fait.
D'accord. Vous ne l'êtes plus?
Je ne le suis plus, mais je vais faire une surprise à mon chef de centre, qui est mon meilleur ami. J'ai fait une demande de réengagement.
Très bien. Pour quelle raison? Pourquoi vous voulez vous réengager?
Oh bah de toute façon, j'avais jamais vraiment quitté le sérail et puis bah tous les incendies de ces derniers temps m'ont redonné l'envie de d'être utile à la population.
Vous avez entendu peut-être ces chiffres, une enquête RMC qui nous parle d'une explosion du nombre de candidats au recrutement. Par exemple, en Gironde, d'ordinaire, c'est 80 en moyenne 80 demandes de recrutement. Là, on en est à 400. Ça vous fait chaud au cœur, ça vous rassure?
Ah bah totalement, oui oui. Que nos petits jeunes s'engagent, de toute façon, c'est vraiment un sacerdoce et un deuxième super métier.
Merci, Benjamin, de votre témoignage, de votre réaction. Benjamin, qui nous appelait depuis le département de Lyon, ancien pompier volontaire qui va le redevenir. Merci beaucoup, Benjamin. RMC, 7h40.
RMC, jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Victor Porcher est avec nous. Il lit tous vos messages qui nous parviennent sur le WhatsApp de l'émission au 06 12 424 424. Et des messages, il y en a, Victor.
Et notamment sur ce projet de construction de nouvelle entrée de l'Assemblée nationale, chiffré à plus de 50 millions d'euros. Christian nous dit, c'est totalement absurde. Il ne faut absolument pas que ça se fasse. Alors je viens ce matin de signer la pétition. Mathieu nous dit, mais rétablissons du bon sens. Modifier l'entrée de l'Assemblée, c'est pas du tout prioritaire. Et Jean-Marc nous dit, avant même de parler d'architecture, d'environnement, a-t-on le pognon, nous écrit Jean-Marc. Quant à la maison, je n'ai pas l'argent pour refaire le papier peint, et bien je reste tout simplement avec l'ancien. Beaucoup de colère sur le WhatsApp d'RMC. Lydia nous dit, mais quelle honte à l'heure à laquelle on nous demande des économies. Mathieu nous dit, j'ai l'impression qu'on dilapide notre argent. Et puis un message qui n'est pas signé mais qui nous liste un petit peu toutes les autres priorités pour lesquelles ces 50 millions d'euros pourraient être utilisés. Les hôpitaux et les écoles sont clés. Et puis tiens, pourquoi pas la reconstruction de la forêt en Gironde?
Exactement, et pourquoi pas les sapeurs-pompiers leur donner des moyens. Dans un instant, le méga-feu de Gironde, justement désormais maîtrisé, reste à sauver la saison touristique. La région lance dès vendredi une campagne européenne baptisée « Les vacances continuent ». Peut-on encore sauver l'été 2026? Deux invités avec nous, Christelle Chassagne, président du comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, et David Laforgue, restaurateur au bassin d'Arcachon. Vous avez décidé de maintenir vos vacances dans la région. Vous nous appelez au 3216. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC, 7h43 en Gironde. Les vacances continuent. Le méga-feu de Gironde a été déclaré maîtrisé hier par les autorités. Reste maintenant à tenter de sauver la saison touristique. Et Dieu sait que c'est important dans la région. La Nouvelle-Aquitaine lance dès vendredi une campagne nationale et européenne sur le thème « Les vacances continue avec nous, Christelle Chassagne, présidente du comité régional de tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Christelle Chassagne.
Bonjour Rémi.
Et nous avons également avec nous David Laforgue, restaurateur sur le bassin d'Arcachon, où il gère 8 établissements. Bonjour David.
Bonjour Rémi.
Merci également d'être avec nous. Christelle, tiens d'abord, Christelle Chassagne, aujourd'hui, est-ce qu'on peut venir en Gironde en toute sécurité pour passer ses vacances ?
Si vous aviez prévu de venir, venez. Et si vous n'aviez pas prévu de venir, venez aussi. Oui, aujourd'hui, on peut à nouveau accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions.
Parce que forcément, les images de ce méga feu, les récits ont frappé l'opinion publique. Mais il faut le dire, le département de Gironde, c'est un immense département. Je ne sais pas même si ce n'est pas le plus grand département de France.
Et c'est
la Guyane, pardon, on me dit dans mon oreillette, mais bon, en métropole, c'est le plus grand département de France. Mais il n'y a que, pareil, c'est énorme, hein, je sais, on ne va pas minorer ce qui s'est passé, mais il n'y a que 4% du territoire qui a été touché.
C'est ça exactement. Alors il faut absolument pas minorer ce qui s'est passé parce qu'il y a des gens qui sont restés sur le carreau et pour qui ça va être très difficile. Mais il faut surtout penser aujourd'hui à cette saison qui continue. Les vacances continuent ici. Nous avons 4% de la superficie de la Gironde qui a été touchée. Mais nous avons aussi des chiffres avec aujourd'hui entre 74 et 75% du maintien des séjours en Gironde ou dans les Landes. Donc
ça,
on a
des
signaux
ça.
Positifs.
Ouais, ça,
exactement.
C'est une très bonne nouvelle.
Et à l'heure où je vous parle, on a plus que 2 campings qui vont rester fermés sur l'Aige Cap Ferré. Les autres ouvrent dès le 8, donc dans 2 jours. Donc on sera à nouveau quasiment à la normale pour vous dire que le territoire est plus que résilient.
David Laforgue, restaurateur. Sur le terrain, vous avez 9 restaurants, c'est ça, 8 ou 9?
Non, oui, 7 restaurants.
D'accord, 7 restaurants, c'est déjà beaucoup. Comment ils tournent?
Écoutez, tout d'abord, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que pour la région, c'est d'abord une catastrophe humaine, environnementale, mais aussi économique. Hein. Il faut la région et surtout le bassin d'Arcachon. Aujourd'hui, on s'aperçoit que nous sommes, entre 50 et 60% de moins cette semaine.
Ouais, d'accord. Ouais, donc c'est pas encore. C'est pas encore carton plein, mais malgré tout, il y a des clients qui sont revenus.
Et en fonction, autour du bassin d'Arcachon, Arcachon, Andernos ont rouvert plus tôt. Non, Arcachon, pardon, n'a jamais été fermé. Arcachon et Lacanau ont souffert d'entrée avec des incendies. Lacanau, je vais juste me calmer un petit peu.
Il n'y a pas de souci, prenez votre temps.
Exactement.
Arcachon, Lacanau n'ont pas fermé.
Oui, Arcachon et Lacanau n'ont pas fermé. Andernos, effectivement, eux, ont fermé. Et on a réouvert dès vendredi. Et on s'aperçoit, effectivement, que là, nous souffrons. Et nous sommes à 50-60% de moins. Et le Café Ré nous a ouvert depuis lundi soir. Et le Café Ré, effectivement, on est aussi à 50-60% de moins.
Est-ce que ce sont les mêmes touristes que d'ordinaire qui reviennent?
Alors aujourd'hui, c'est surtout les locaux qui sont beaucoup revenus, avec les touristes qui ont ceux qui veulent nous soutenir. Mais il faut lancer un message à tous les touristes. Effectivement, comme le dit Madame Chassagne, il faut revenir. Il faut vraiment revenir dans notre région. On en a besoin de tous, de toutes et de tous pour soutenir l'économie locale, parce que l'économie locale, vraiment, on va vraiment souffrir.
Alors que normalement, Christelle Chassagne, en ce moment là, on est en pleine saison touristique. Normalement, c'est 100% de taux de remplissage.
Ben, normalement, on est dans le feu de l'action, c'est le cas de le dire, sans vilain jeu de mots, mais on doit être avec un taux d'occupation maximal. Les restaurants, les terrasses sont pleines. C'est 142 000 emplois en Nouvelle-Aquitaine, donc vous imaginez l'impact. Et puis, il y a les zones qui ont été vraiment touchées, mais celles qui ont subi l'amalgame d'informations avec des gens qui sont partis. Et donc, jusqu'à Bordeaux, la Cité du Vin, par exemple, a fait moins 70%. Les restaurateurs, ça a été terrible aussi. Donc là, la campagne, elle est effectivement effectivement plus que nécessaire pour dire oui, nous sommes en capacité de vous accueillir. Oui, la saison continue. Non, ça n'est pas foutu. Évidemment qu'il va y avoir un impact économique très fort. Pour certains, je doute même qu'ils soient en capacité de se relever. Je pense aux petits campings. Hein, sur les gros groupes, ça sera différent. Mais les petits campings, entre le moment où c'est fermé, ça réouvre, il y a au moins... voilà, exactement. Et puis une période où on a des charges à payer qui tombent maintenant, qui sont importantes. Donc, il faut absolument, absolument continuer cette saison. Et comme le disait notre restaurateur qui est là, on David est prêt. Tout est... Voilà, exactement.
Est-ce que vous réclamez un soutien économique de la part de l'État, des pouvoirs publics?
Alors, moi, je plaide un soutien économique puisque la région ne saurait seule compenser tous les traumatismes qu'a subi le territoire. Vous l'évoquiez tout à l'heure, naturel, humain, etc. Donc, nous attendons de l'État, évidemment, un soutien. Il n'y aura pas que l'État. Il va y avoir, évidemment, des mobilisations à l'échelle régionale, mais aussi avec des partenaires locaux qui sont déjà enclenchés. Il faut déjà qu'il y ait un état des lieux aussi, hein, qu'on sache au sur-mesure entre les impactés et ceux qui ont été touchés, et donc voir quelles structures et puis quels critères, qu'on ne retombe pas dans des choses délirantes.
Une dernière question, David Laforgé, elle est douloureuse cette question, mais est-ce que vous pensez qu'à la fin de cette saison, vous pourrez maintenir en vie vos 7 restaurants?
Écoutez, on n'a jamais été autant en danger que cette année. Effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une période où on génère notre trésorerie. Nous, effectivement, on est un peu plus gros, mais toutes les entreprises, de la petite à la grosse, on n'a jamais été autant danger. Aujourd'hui, nos heures sont comptées.
On l'a compris, et encore une fois, on lance cet appel. Les vacances continuent. Voilà, c'est l'appel lancé par la région pour que les touristes continuent à venir. Merci Christelle Chassagne, présidente du comité régional de tourisme de la Nouvelle-Aquitaine, David Laforgue, restaurateur sur le bassin d'Arcachon. RMC, 7h50. Dans un instant, le portrait du jour avec Victor Porcher. On parle de quoi, Victor? De qui plutôt?
Un fondateur présumé de la DZ Mafia arrêté, et avant ça, il avait été acteur.
Allez, à tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
RMC 7h51, le bonus RMC de Charlène Villemer. Charlène, on parle ce matin de Instinct, le troisième album d'Angèle qui se fait attendre.
Et oui, depuis la sortie du premier extrait Dis-le en juin dernier, le mystère plane autour de ce troisième opus. Elle distille, Angèle, au compte-gouttes, quelques indices sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours encore, des photos de vacances, des lettres Instinct, version coquillage et crustacé. Mais non, toujours pas de date annoncée. Alors, ce que l'on sait quand même de ce troisième album, il doit sortir d'ici la fin de l'année. En attendant, un nouveau son est arrivé hier soir, il est tout frais sur YouTube, Run, avec la DJ belge Amélie Lance. Les deux artistes avaient créé la surprise il y a 3 semaines à Dour. Avec Dis-le et maintenant Run, Angèle semble en tout cas prendre un virage très techno.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
Le portrait du jour avec Victor Porcher. Victor, ce matin, tu nous présentes Mehdi Laribi, l'un des fondateurs présumés de la DZ Mafia.
Un Marseillais comme ce gang franco-algérien arrêté en Algérie. On l'a appris hier, fils d'un routier et d'une mère au foyer, qui est devenu cible prioritaire, disait Gérald Darmanin. Il est soupçonné d'être le logisticien du groupe de narcotrafiquants, selon le procureur. Reste à obtenir son extradition vers la France. Pas gagné au vu des relations entre Paris et Alger. Mehdi Laribi était aussi dans le viseur de la DZ Mafia elle-même, soupçonnée d'être un traître, accusé d'avoir fait capoter le braquage d'un camion de drogue au Maroc l'année dernière. Ce sont les conclusions des écoutes téléphoniques d'autres chefs présumés du groupe de narcotrafiquants, eux déjà arrêtés auparavant. Gabriel Horry, dit Gabi, Amin Walan, alias Mamine.
Et Mehdi Laribi a aussi son surnom.
Tic. Ça vient de Rachi Tic, le nom de son personnage au cinéma. Parce que oui, avant d'être un bandit, Mehdi Laribi a commencé acteur. 2008, le rôle de Rachi Tic, donc un petit délinquant marseillais dans Ramsa, film de Karim Dridi. Très nature devant la caméra, qui avait envie de bien faire, se souvient le réalisateur auprès du Nouvel Obs. Mais aussi, gamin difficile à garder concentré et turbulent. 3 ans plus tard, en 2011, 3 de ses amis d'enfance brûlent dans une voiture. Laribi est arrêté avec son... son frère, surnommé Tac. Tic et Tac vont en prison, respectivement 10 et 25 ans chacun.
Et à la sortie, c'est le début de la DZ Mafia.
Et de la guerre meurtrière à Marseille en 2023 avec le gang rival Yoda. Pourquoi ? Pour gagner du territoire, pour gagner de l'argent, bien sûr, mais il faut toujours un déclencheur futile, presque ridicule. La même année, début 2023, à Phuket, en Thaïlande, Mehdi Laribi s'écharpe avec Félix Bingi, chef présumé du clan Yoda. Une histoire de glaçons jetés en soirée et près d'une centaine de morts les années suivantes. Depuis, le clan Yoda n'existe plus, mais dorénavant, les jeunes s'en prennent aux anciens. Les dissidents de la DZ Mafia, nouvelle génération, ont multiplié ces derniers mois les vidéos de menaces contre Mehdi Laribi et ses soutiens.
Merci pour ce portrait, Victor Pourchet, RMC, 7h55. Tout l'été, des reportages près de chez vous, 4 mois après les élections municipales.
RMC,
dans vos villes.
Pierre Bourgès, vous nous emmenez à La Réole, en Gironde, 5 mois après les inondations historiques qui ont touché la commune pendant près de 2 semaines, des crues qui sont aussi tombées dans la dernière ligne droite de la campagne des élections municipales. Retour sur ce moment très particulier pour Bruno Marty, le maire d'hiver gauche de La Réole, que vous avez rencontré, Pierre.
Depuis les hauteurs de sa mairie, Bruno Marty contemple la Garonne, une cinquantaine de mètres en contrebas, et forcément, les images des inondations de février dernier lui reviennent.
Quand on s'imagine que là, sur les quais, il y avait 2,50 mètres d'eau, et qu'aujourd'hui, on a un banc de gravier qui est en train de se former, et on voit d'ailleurs des stigmates derrière le pont, là, tout le talus de la Garonne, là, tout ça s'est raviné sur 5 mètres de large. On n'a pas les moyens aujourd'hui d'un rocher et de récupérer le talus.
Les crues de 2026 ont été historiques dans cette commune de 4500 habitants, 11 jours pendant lesquels le maire n'a pas arrêté une seconde.
En fait, quand on est dedans, c'est l'adrénaline. Vous dormez peu, pas, et vous pensez qu'à ça, vous pensez au scénario le pire, et donc vous anticipez. Et donc pendant 11 jours, vous faites que ça, vous pensez cru, et certains, notamment parce qu'il y avait une élection, me disent « mais quand c'est qu'on y va ?» J'ai dit « là, on ne peut pas y aller ».
Parce qu'à la fin de ces inondations, il ne reste que 3 semaines avant le premier tour des élections municipales, de quoi donner quelques sueurs froides au maire, aussi candidat, qui n'a même pas pu finaliser son programme.
Quand je reviens presque opérationnel, je demande à mon imprimeur « quand c'est que je dois réaliser la profession de foi et les documents ?» Mais il me dit « mais t'as 2 jours, là, 2 jours après ?» Il faut que tu le déposes en préfecture, il faut que ça soit validé. Et en fait, tout ça nous a été sorti de la tête. S'il n'y avait pas ce coup de fil, il n'y a pas de bulletin de vote, clairement. Et ça aurait été quand même assez cocasse, un maire qui arrive avec zéro, pas du bulletin de vote et pas de profession de foi. Mais concrètement, ça aurait pu.
D'autant qu'en même temps apparaissent les doutes. Après une crue historique, un second mandat éreintant, faut-il vraiment rempiler pour un troisième ?
C'est là où je me suis dit, quelle va être la gestion, comment je vais pouvoir gérer. Il y a un doute. Mais l'enjeu était tel, parce qu'il y avait un discours très, très national qui est porteur sur le monde rural.
Sur la commune de La Réole, son principal opposant était du Rassemblement National. Pour cet élu de gauche, c'était une pression supplémentaire qui l'a fait tenir.
Ah non, je ne voulais pas être le maire en fait, qui laisse les clés au Rassemblement National sur ma commune. C'était juste pas possible. Ça aurait été pire que tout, en fait. Comme j'ai dit, c'est même au détriment de ma santé, il faut que j'aille.
Aujourd'hui, les doutes de Bruno Marty se sont estompés. Il le sait, les crues reviendront, mais avec l'expérience, il en est convaincu. Ses habitants et lui y sont préparés.
Merci Pierre Bourgès. Dans un instant, le journal de 8h avec à la une les incendies qui suscitent des vocations chez les sapeurs-pompiers. Fait juste après l'écho avec notre économiste Pierre Rondeau. Pierre, les constructeurs auto investissent dans le domaine militaire.
Oui, mais ça ne sera pas le char Renault, mais les drones Renault.
A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.